Desfontaines.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté l'invitation de RFI. Vous mènerez la liste communiste de la gauche unie pour les élections européennes en juin. Vous avez 27 ans, vous êtes passé par les jeunesses communistes et c'est donc vous que le PC a choisi pour tenter un retour au Parlement européen après l'échec de la liste conduite en 2019 par Yann Brossa. Avant d'évoquer vos priorités, l'actualité, Léon Desfontaines, cet accord entre les 27 et le Parlement européen il y a quelques heures pour prolonger d'un an le régime d'exemption de droits de douane accordé à l'Ukraine. Il y aura, malgré tout, c'est nouveau, un plafond pour les importations de certains produits agricoles, les œufs, les volailles, le sucre, l'avoine, le maïs, le miel. Cela faisait partie des demandes pressantes des agriculteurs un peu partout dans l'Union. C'est un bon accord pour vous ?
Non, c'est pas un bon accord parce qu'il ne remet pas en cause l'abaissement des droits de douane. Et la réalité, c'est que malgré le fait qu'il y ait un plafond, on aura toujours du poulet ukrainien qui est élevé dans des conditions sanitaires, sociales et environnementales bien en deçà de celles que nous avons en France, qui sera mis en concurrence avec le poulet qui est produit par nos agriculteurs et qui est vendu deux fois moins cher sur le marché. Bon, je vous parle de la volaille, mais si on parle là des céréales, du blé, si on parle du colza par exemple, il n'y a aucun plafond qui est mis. Et pour le coup, de même, les conditions sociales et sanitaires et environnementales sont bien en deçà de celles que nous avons. Et donc, il y a une concurrence déloyale qui va s'installer entre les agriculteurs de l'Union européenne, de la France et les agriculteurs notamment ukrainiens. Et on dit agriculteurs ukrainiens, mais ce sont bien souvent des oligarques en réalité ukrainiens qui sont parfois d'ailleurs même pas installés en Ukraine, qui profitent justement de l'abaissement de ces droits de douane comme un effet d'aubaine.
Donc pour vous, ces exemptions, ne s'imposent pas malgré l'état de guerre
tout
dans ce
fait.
Pays.
Parce que pour moi, premièrement, ça n'aide pas le peuple ukrainien parce que ça enrichit des oligarques, notamment ukrainiens. Et deuxièmement, ça vient instaurer une concurrence déloyale, c'est même un avant-goût de ce que pourrait être l'élargissement de l'Union européenne à des pays comme l'Ukraine, la Moldavie, où les salaires sont bien en deçà de celles que nous avons, les normes sociales, environnementales sont bien en deçà de celles que nous avons en Europe.
Vous vous y êtes dit effectivement opposé, que ce soit concernant l'Ukraine ou la Moldavie qui ont obtenu un statut de candidat en décembre dernier auprès des 27. Encore une fois, l'état de guerre ne justifie pas que l'on aille plus vite pour vous ?
Non, parce que moi ce que je dis c'est que bien sûr face à ce qui se passe, il faut aider les Ukrainiens à résister à un maximum, essayer que le front soit gelé et empêcher les Russes d'avancer sur le front ukrainien, ça c'est la première des choses. Mais parallèlement, nous devons porter un traité de paix, et ce traité de paix, on doit mettre au centre de la table pour mettre Vladimir Poutine autour des négociations le statut de neutralité de cette région. Même d'un point de vue pour la paix, on ne peut pas intégrer l'Union européenne, l'Ukraine dans l'Union européenne, parce que ça viendrait malheureusement remettre en cause ce statut de neutralité.
Mais dans l'ordre, vous voyez quoi ? Geler le front d'abord et traité de paix ensuite, ou traité de paix, on peut à la fois aider militairement et négocier avec Vladimir Poutine, c'est un peu contradictoire.
Il faut montrer que l'Ukraine résiste et continue à résister et n'est pas prête de lâcher le front, c'est la première des choses. C'est pour ça que je dis qu'il faut envoyer des armes pour permettre aux Ukrainiens de se défendre, mais parallèlement du coup, parce que ça fait deux ans qu'on est en conflit, on voit que l'issue militaire ne permet pas de mettre un terme à la guerre, donc on doit apporter aussi une voie de cessez-le-feu.
Mais est-ce qu'il faut négocier aujourd'hui ? C'est ce que demandait le pape François il y a quelques jours. Le président du parti de la gauche européenne au Parlement, l'Autrichien Walter Bayer, a relayé ses propos. C'est votre position aussi ?
Ah, je la partage en tout point. Je n'ai rien à retirer de l'intervention de Walter Bayer.
Mais négocier aujourd'hui, alors que la Russie, précisément, est à l'offensive, revendique la prise hier encore d'une nouvelle localité près d'Avdiivka, ce ne serait pas faire un cadeau au régime russe, ce régime qui assassine ses opposants et qui menace des États membres de l'Union européenne militairement ?
Vladimir Poutine est un dictateur. Je le dis sans aucune ambiguïté. Les élections de ce week-end l'ont démontré. L'assassinat de M. Navalny le montre malheureusement également. C'est un dictateur. Pour autant, on ne choisit pas nos interlocuteurs. Nelson Mandela, qui a été enfermé pendant plus de 27 ans dans les geôles de l'apartheid, a eu ces mots en disant que si nous voulons faire la paix avec nos ennemis, il va falloir travailler à un moment ou à un autre avec nos ennemis. Et bien, je pense qu'à un moment ou à un autre, ça va devoir se décider. De toute façon, à un moment ou à un autre, on se mettra autour de la table pour discuter d'un traité de paix, d'un cessez-le-feu. Je ne veux pas que ça se fasse au détriment de millions de morts.
Dans cette campagne, Léon Desfontaines, vous dites que votre cible, ce sont les victimes de l'Europe. Qu'est-ce que ça signifie exactement ?
Les victimes de l'Europe libérale. Moi, je viens d'un département, la Somme, une ville, Amiens, qui vit au rythme des directives européennes, qui a vu des usines partir à l'étranger, délocaliser, fermer, Goodyear, Whirlpool, parce que la manœuvre était moins chère à l'est de l'Europe. Et aujourd'hui, on a une population qui se sent complètement délaissée par les politiques européennes, mais même pire que cela, victime, parce que désindustrialisation, recul des services publics. Eh bien, aujourd'hui, je leur dis que la liste que je porte, non seulement seulement portent leur colère vis-à-vis de la construction européenne libérale, mais surtout leur espoir de construire une autre Europe, une Europe qui soit capable d'agir pour l'emploi, pour le pouvoir d'achat, pour lutter contre le réchauffement climatique et pour répondre à l'impératif environnemental.
Il ne vous aura pas échappé, évidemment, que ce discours contre l'Europe des traités, contre l'Europe du libéralisme, c'est aussi un discours que porte le candidat du Rassemblement National, Jordan Bardella. On l'a dit, hein, c'est votre contemporain. Vous avez quelques mois d'écart. Il est le grand favori de ce scrutin, donc pour la partie française. Qu'est-ce qui, sur ces questions économiques et sociales, hein, et pas sur les autres, vous différencie de lui ?
Ah, mais je le dis, regardons concrètement ce qu'il a voté au Parlement européen. Regardons concrètement ce que le Rassemblement National a voté à l'Assemblée nationale maintenant qu'ils ont 88 députés dans le Palais Bourbon. La réalité, c'est qu'ils ont voté main dans la main avec le parti d'Emmanuel Macron contre l'augmentation des salaires, contre leur indexation des salaires sur l'inflation. Même le parti qui se dit défendre la ruralité ont voté main dans la main avec La République En Marche contre une loi qui permettait de lutter contre les déserts médicaux. La réalité, c'est que le Rassemblement National a le même projet économique qu'Emmanuel Macron, la xénophobie en plus. Nous l'avons combattu, nous continuerons de le combattre. Nous n'avons rien à voir avec le Rassemblement National. En revanche, ce que je dis aussi, c'est que c'est un parti de menteurs. Parce qu'en aucun cas, aujourd'hui, il défend les travailleurs comme il le prétend.
Ce sera votre principal adversaire pour ces élections, parce que par ailleurs, on l'a entendu, vous ne ménagez pas vos coups contre les membres de la majorité présidentielle en France, y compris aussi contre le candidat socialiste Raphaël Glucksmann. L'ennemi, là, pour ce scrutin, c'est le Rassemblement
les
National.
Les ennemis, c'est la droite, l'extrême droite. Ce sont mes deux principaux adversaires. Maintenant, bien évidemment, moi j'ai à cœur de montrer la singularité et l'originalité de notre liste avec les autres à gauche. Mais je le dis, la gauche gagnera ces élections européennes qu'à condition qu'elles soient en capacité de faire perdre des sièges à la droite et à l'extrême droite. Et pour ce faire, il faut permettre à ce que les quatre principales listes de gauche dépassent le seuil des 5%, lui permettant d'avoir mécaniquement 5 élus en plus.
Et on rappelle qu'elles arrivent désunies hein, à ce scrutin, les quatre listes de gauche françaises. Léon Desfontaines, vous décrivez l'Union européenne finalement comme un carcan dont il faudrait se libérer. Vous ne lui reconnaissez aucune vertu si on pense, je sais pas, par exemple hein, à la régulation sur la protection des données personnelles. Est-ce que l'Europe c'est pas aussi ça parfois des décisions prescriptrices pour le reste du monde?
Bien sûr, l'exemple que vous avez donné, on peut aussi citer Erasmus, etc. Mais le fondement même de l'Union européenne, qui aujourd'hui nous avait demandé d'échanger une partie de notre souveraineté en échange de quoi nous aurions paix et prospérité. Il y a un pacte social qui avait été forgé. Ce pacte social a été brisé. La paix et la prospérité ne sont pas présentes sur notre territoire. Alors bien sûr, je ne dis pas qu'il faut sortir de cette Union européenne. Je dis qu'il faut changer cette Union européenne, qu'il faut reprendre la main sur les décisions qui sont prises pour permettre que cette Union européenne puisse agir réellement dans l'intérêt des peuples. Et moi, je souhaite, et je sais que ça peut être un gros mot des fois pour certains à gauche, je souhaite défendre les intérêts des Français au Parlement européen. Et c'est l'ambition que je me donne. Et je pense qu'on peut changer les choses. Les accords de libre-échange, on en parlait juste à l'heure, c'est un débat qui a lieu au Parlement européen. Et bien demain, si on a un maximum de députés européens de ma liste qui sont élus, ils voteront systématiquement contre ces accords et ils pourraient ne pas passer.
Le 9 juin au soir, il y aura 79 élus
80,
français,
cette
80 pardon, cette année au Parlement européen. Quel est votre objectif à vous pour la liste communiste en deux mots ?
Bah, de faire le maximum et surtout de faire notre retour au Parlement européen pour avoir des députés européens issus du monde du travail qui soient capables de défendre nos intérêts à Bruxelles et à Strasbourg.
Merci Léon Desfontaines d'être passé sur RFI ce matin.